Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Nous sommes dans la mondialisation, dans la mouvance, l'incertitude, les déplacements. Un jet pour les plus nantis, ceux-là même qui veulent sauver la planète. En bateau déglingué pour ceux que la misère pousse à aller voir ailleurs. Que penser de ce monde, de ces situations, de ces changements? Voici le point de vue d'un de ceux qui prônent le retour à la Terre, aux traditions, à la préservation d'un passé pourtant révolu, qui sont hostiles à tout corps étranger risquant de mettre le monde en péril, leur monde en péril. Le personnage central de ce roman a des réflexions justes, d'autres plus discutables. Mais l'éclairage qui est porté sur lui et sur sa jeunesse explique aussi en partie ses positions radicales. Ce roman s'intitule « Saint-Marsan, un retour en Chalosse ». Il est édité par les éditions Terre de l'Ouest et je reçois son auteur Bruno Lafourcade. Bruno Lafourcade, bonjour.
Bonjour, Monique Fauché.
Alors, c'est un roman. C'est écrit sur la page de garde,
oui.
Mais écrit à la première personne du singulier. Qui est cet homme, la cinquantaine, plutôt seul, plutôt amer, désenchanté, Jean Lafargue?
Ben, vous m'avez reçu pour le roman précédent qui s'appelait Livret, et c'était déjà le personnage principal de Livret. Il s'appelle donc Jean Lafargue, il a 50 ans, et c'est un homme qui est un écrivain qui n'a pas eu de succès, et qui revient chez lui après une très longue période qu'il a passée dans des grandes villes, Paris, Lyon par exemple, Bordeaux, et il revient dans son village natal qui s'appelle Saint-Marsan, qui est le personnage principal de ce roman.
Voilà, alors bon, il a la cinquantaine, plutôt seul, plutôt amer, désenchanté. Vous parlez il est écrivain, mais il n'a pas le succès escompté,
c'est ça, oui.
On en parlera plus loin. Il revient au pays, donc dans quel pays exactement?
C'est en Aquitaine, dans les Landes, plutôt exactement entre le Tursan et la Chalosse, qui est une petite région donc bien connue des Landais.
Oui.
Et voilà, on est surtout agriculteur.
Voilà. Alors, qui a un certain charme quand même?
La région ou le personnage?
Les deux.
Les deux ont énormément de charme. Et la région est connue pour son tourisme balnéaire, par exemple. Donc j'imagine qu'elle a du charme pour certains, oui.
Et pour Jean, pourquoi revient-il?
Il revient parce que après un long périple, après une longue excursion dans des villes très peuplées, il a besoin de se ressourcer, j'imagine. Il a l'impression que son pays lui manque, et son pays lui manque. Donc il revient, et son pays est comme une femme dont il a besoin, dont qu'il vient retrouver avec plaisir.
Alors, on va reparler de ce plaisir-là, de quoi il est constitué, mais dès le départ, mais vraiment dès le départ, c'est la première page, vous ne le gâtez pas, votre personnage.
Pourquoi?
Parce qu'il est odieux avec l'enfant, avec...
Non, Monique
Allez,
Fauché,
vous avez le droit.
Écoutez-moi, c'est pas pour le défendre. Parce
mais si,
que
vous avez le droit.
Il est issu de
même
ma main.
Même tout coupable a le droit d'avoir un avocat.
Voilà, donc je serai l'avocat de cet odieux personnage. Si vous êtes dans un train, qu'il y a un enfant qui fait du bruit, est-ce que ça va vous faire plaisir?
Certes non.
Ça le met hors de lui, moi aussi ça me met hors de moi, vous voyez. Bon, je le fais avec peut-être plus de gentillesse que lui, mais en réalité on a tous envie parfois
de l'étrangler.
De corriger un enfant qui est mal éduqué.
Oui, tout. Alors c'est vrai.
Là on fait référence à la première scène, voilà.
Oui, tout à fait, la première scène. Et alors moi, là pour le coup, j'ai fait comme les deux filles d'après, j'ai pouffé. Parce qu'il y a deux filles qui sont en train de rire, elles pouffent. Et alors, là... Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, ce sont des poufs, non?
Des pouffeuses.
Des poufeuses,
oui, voilà, des filles qui poufent.
Et vous dites, toutes les filles sont des poufs.
Non, je ne dis pas moi, c'est le personnage qui le dit, évidemment.
Oui,
moi,
mais vous
vraiment pas
dire.
Ça.
Oui.
Vous imaginez bien que je ne peux pas me couper de toute la clientèle féminine. Non.
Oui, ça serait maladroit.
Ce serait très maladroit, je ne le ferais certainement pas. Non, c'est un personnage.
Alors...
En fait, dans le premier chapitre, peut-être, certainement l'avez-vous remarqué, il s'en prend à tous les personnages, qu'il trouve odieux dans la vie. Comme ça, la question est réglée. C'est un odieux personnage avec tout le monde.
Oui, voilà, il en veut à tout le monde. Et c'est intéressant parce qu'on se dit, tiens, mais pourquoi est-il comme ça? Notre attention est attirée, évidemment. Il a des comptes à régler. Bon, mais quand il arrive au pays, alors là, il y a le sang de la race. Il ressent... Alors, qu'est-ce que c'est le sang de la race?
D'abord, c'est une référence à un écrivain landais qui s'appelle Emmanuel Delbousquet, qui a écrit un très beau recueil de poèmes qui s'appelle « Le chant de la race ». Et ce qu'il appelle, lui, le sang de la race...
Le sang, S-A-N-G. Hein,
oui. Et dans, chez Emmanuel Del Bousquet, le recueil de poèmes s'appelle Le chant de la race.
D'accord.
Et le sang de la race, dans son esprit, c'est l'appel du pays, en fait. Voilà, c'est une sorte de référence barésienne. Voilà.
D'accord.
Certainement, d'ailleurs, c'est un personnage barésien à sa façon.
Oui.
Il est attiré par le retour aux racines. Mmh. Mais malgré lui, d'ailleurs, parce qu'il a quitté ce village adolescent, parce qu'il le trouvait mort et parce qu'il s'ennuyait dans ce village. Il voulait vivre une vie d'aventurier, ou en tout cas, non, peut-être pas d'aventurier, mais une vie dans des grandes villes.
Plus,
il voulait
plus
voir
animé.
Du monde, plus animée, plus vivante, parce que un des thèmes du roman, c'est la mort de ce village. Et,
oui.
et ce village, il le trouvait mort. Et il revient, et il comprend quelque chose sur cette mort. Mmh. C'est que c'était cette mort qui permettait à ce village de vivre. Maintenant, voilà ce qu'il veut dire. Il veut dire...
Là, à mon avis, c'est capillotracté quand même. Excuse-moi.
Pas du tout, absolument pas. Je comprends très bien sa logique et je vais encore le soutenir, cet audio personnage.
Ça m'intéresse. Parce que, effectivement.
C'est le grand thème du roman.
Oui, voilà, c'est le grand thème du roman et on peut en parler. Je ne dis pas que vous ayez totalement tort, mais.
Mais vous hésitez à me donner totalement raison.
Voilà, vous avez tout compris. Alors, vous frémissez à l'idée de retrouver les lieux de votre jeunesse.
Bien entendu, c'est mon personnage qui frémit. Moi, je ne frémis jamais.
Oui, oui. Il faut que je... Oui, puis vous appelez pas Jean.
Ah, exactement.
Voilà.
Exactement.
Bon, alors... et donc, Jean, d'emblée, il trouve que tout a changé. Bon, fatalement, je ne sais pas combien de temps, je ne me souviens plus combien de temps il revient, hein, au bout du pont, combien de temps. Et il critique tous ces changements, alors parce qu'il y a des locaux, il y a des fabriques, il y a des tas de choses, des silos peut-être qui abîment le paysage. Et alors je me suis dit, mais oui, mais en même temps, bon, on n'en est plus au lavoir, heureusement pour les femmes. Le laboureur n'a plus non plus sa charrue. C'est quand même pas mal aussi le progrès.
Ah, tout à fait, le progrès c'est très bien, mais je ne reconnais pas du tout la psychologie de mon personnage, pour une raison très simple. Dans sa jeunesse, le village était mort, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien.
Mmh.
Les agriculteurs,
j'en imagine très bien,
les fermes fermées, il n'y avait plus du tout, il n'y avait plus aucune activité.
Mmh.
Donc il ne peut pas regretter quelque chose qu'il n'a pas connu, il ne peut pas regretter des lavoirs parce qu'il n'y a pas de lavoirs, hein, c'est tout.
Oui, mais donc, parce que là, à l'instant, vous avez dit... En fait, ça ne changeait pas, donc ça pouvait encore vivre. Mais il ne vivait pas, ce village, avant.
Oui, c'est ça. Ce village était mort. C'est pour ça qu'il le trouvait ennuyeux. Mais ce qu'on appelle la vie d'un village, le ressourcement d'un village, la revitalisation d'un village, c'est le tourisme, en réalité. Et le tourisme tue. Voilà ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire quand il dit que la mort préservait le village de la mort, c'est que le fait que le village n'avait plus d'activité autre que artisanale ou un peu agricole, c'est qu'il était préservé du saccage des paysages par l'industrie touristique. Voilà ce qu'il veut dire. Or, le personnage de sa sœur...
Vous êtes sévère, quand même.
Non, le personnage, moi, je ne pose aucun jugement là-dessus. Sa sœur est du reste... tient un site de tourisme, de voyage touristique.
Oui. Alors,
c'est son antithèse.
C'est vrai que moi, je n'avais pas bien compris que dans Saint-Marsan, il y avait beaucoup de place accordée au tourisme. Moi, je voyais un village qui revivait plutôt. Et puis, je trouve que le tourisme français, quand on voit ce qu'il est dans certains endroits, ils font un peu attention, peut-être plus qu'avant, ils font un peu attention à préserver quand même les lieux.
Oui, certainement, oui. Vous voulez parler des lois sur l'environnement ?
Oui.
Oui, oui, c'est possible, oui.
Oui, même le...
Mais il suffit d'un camping pour dénaturer un village. Hein.
Bah oui.
Eh oui, mais ça apporte de l'argent, je suis bien d'accord, et ça fait vivre des commerçants. Mais ça détruit aussi, le tourisme.
Oui, ça détruit, mais tout le monde ne peut pas se payer l'hôtel.
Ah non, mais je ne parle pas de différences sociales. Je ne parle pas de...
Vous parlez des lieux, de la...
Oui.
D'accord. Mais donc, vous avez... Jean Lafargue, voilà, je cherche à fuir les lieux parce qu'il s'ennuyait, il...
Mais vous savez bien,
vous
quand on est adolescent...
Vous parlez très bien de l'ennui de l'adolescence. Mais oui,
bien sûr.
On traverse la France, il suffit de voir les villages. Attendez, certains sont mortels. Peut-être moins maintenant, parce qu'on a conscience qu'il faut plus d'activité pour les jeunes aussi.
Oui, peut-être, oui.
Non, vous n'avez pas cette impression? Ça ne vous a pas frappé?
Non, ça ne m'a pas frappé, non.
Oui, là, donc, vous évoquez dans ce village l'ennui des adolescents. Et Jean Lafargue parle aussi de ce qui se passait. En fait, c'était un monde dur aussi. Vous parlez de l'instituteur, instituteur communiste, il aurait pu être autre chose d'ailleurs, mais, et qui a implicitement une conscience sociale. À savoir qu'il s'en prend à une petite fille, je dirais petite fille, qui est un peu débilote, non ?
C'est une enfant que l'on disait autrefois attardée.
Oui, que l'on croyait. Oui.
C'est une petite, c'est une débile légère en fait.
Oui. Voilà. Et l'avenir prouvera qu'elle ne l'était pas vraiment.
L'avenir prouvera exactement le contraire, en effet.
Oui.
En effet.
Oui. Et donc, et vous dites implicitement, et ça, c'est vrai qu'on peut le voir aussi chez les gens, ils mettent dans des cases.
Oui. Oui, oui, bien sûr. Mais le personnage de Jean Lafargue est un révolté. Et il est notamment révolté par l'injustice sociale.
Et il est très sensible à cela. Oui. Et vous parlez, et donc dans votre ouvrage, Jean Lafargue parle de la cruauté des plus forts.
Oui, sur les plus faibles, évidemment. Oui, bien sûr. Oui. Alors, et l'instituteur en fait partie.
Oui.
Il faut bien voir que j'ai choisi un instituteur qui a qui est plutôt du courant communiste, si vous voulez, comme beaucoup d'instituteurs dans les campagnes autrefois. Il y avait souvent c'est presque une caricature de le dire, mais le curé et l'instituteur qui étaient
les notables,
qui étaient à la fois des notables et qui se trouvaient souvent en rivalité. Mais si j'ai choisi ce personnage-là, c'est parce que il devrait avoir un souci de
l'égalité.
De l'égalité, non pas des chances,
et
mais
de
l'égalité de la justice sociale. Et lui, ce qu'il a vu, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire quelqu'un qui s'acharnait sur quelqu'un de plus faible et surtout de quelqu'un de diminué, quelqu'un qu'il avait catalogué, comme vous avez dit.
Sur laquelle il avait un pouvoir.
Sur laquelle il avait un pouvoir et évidemment qu'il avait catalogué comme idiote.
Oui.
Alors que c'est une enfant d'origine portugaise.
Oui, donc c'est ça, il y a le problème de la langue.
Il y a déjà le problème de la langue. Et en fait, le personnage, dans ses souvenirs, était frappé par une chose, c'est que les enfants autour d'elle, les autres élèves, ne la martyrisaient pas du tout. Au contraire, elle leur faisait un peu peur parce qu'elle était effrayée par l'instituteur. Et c'est la frayeur de cet enfant leur faisait peur. Il ne comprenait pas pourquoi l'instituteur s'acharnait sur elle.
Oui. Et alors, en regardant donc ce comportement de Jean Lafargue, qui est très sensible à cela, justement la cruauté des plus forts, c'est ce dont il parle. Je me dis, mais Jean Lafargue, il pourrait l'étendre à tout.
Mais c'est ce qu'il fait, il l'étend à tout le monde. Il étend la cruauté, l'injustice sociale à tout le monde, sans aucun a priori. Aux femmes, aux hommes, aux Esquimaux, à tout le monde.
D'accord. Oui, silence de ma part. Je
le dis avec une conviction qui
d'accord.
vous a...
Oui, oui, qui me reste qui me laisse bouche bée.
Non, j'ai
mais
vu,
on va en parler. On va en reparler. Bon, on trace le tableau, l'environnement de ce...
Il faut peut-être dire que, en fait, vous avez parlé d'instituteur parce que lorsque le personnage revient dans ce village, il revoit des gens de son enfance, des anciens amis, son instituteur, qui n'était pas son ami, mais enfin, qui a été son maître. Il revoit sa famille. Donc, il y a une galerie de portraits de ce village-là, qui ne sont pas partis de ce village.
Oui. Il y a un ami, Bernard, avec qui on se demande pourquoi il est ami, sauf que...
C'est dit dans
Jean,
le livre.
Jean Fourcade...
Lafargue.
Je vais finir. Bon, Jean Lafargue est en fait un solitaire. Et ça aussi, je voudrais qu'on en parle, parce que ça m'évoque un autre livre que j'ai lu il y a quelques temps déjà, de personnes différentes, parce qu'il s'est trouvé que Jean Lafargue est un intellectuel, dans le fond. Il aime les livres, il aime écrire, il aime la lecture, il est différent des autres. Et de ce fait, il est mis de côté parce qu'il est différent, ou il agace, ou il met mal à l'aise.
Et c'est certainement pour ça qu'il est sensible à la différence des autres, et au fait que, et le personnage d'Isabelle Pereira est symptomatique, ce qui l'a frappé dans son enfance, c'est précisément que c'est cette fille qui était martyrisée par cet instituteur, parce qu'elle était, elle parlait mal le français, elle était bigleux, elle était baveuse, tout ce que l'on veut, tout ce qu'on peut imaginer d'un enfant qui est accolé l'étiquette de diminuer. Et c'est ça qui le révolte. Comme c'est un révolté parce qu'il a lui-même souffert sorte de cette, différence.
Oui, oui, il se sent lui-même incompris.
C'est un déclassé à sa façon,
oui.
Bien qu'il soit un prolétaire.
Faisons un tour du côté de sa famille. Alors, la famille, hormis un oncle qui l'a peut-être encouragé, il y a également un enseignant, un éducateur prêtre qui également l'a aidé dans ses écrits, l'a encouragé dans ses écrits. Il y avait deux personnes qui l'ont encouragé, il me semble.
Non, il a un oncle qui a été à l'origine de sa vocation, en quelque sorte.
Oui, mais parmi ses enseignants, il n'y en a pas un quand il était dans un cours privé ?
Non.
Ah bon, non. C'est moi qui l'ai rêvé, ça. Alors, bon, le père, comment le voyez-vous ?
Le père de Jean Lafargue, ouais, il est très absent, puisqu'il n'est pratiquement pas décrit dans le livre.
Non, très peu. Mais moi, je le vois violent.
Oui, c'est un personnage qui brille par son absence, qui brille certainement par le poids qu'il a eu sur ses enfants et le poids psychologique qu'il a eu sur ses enfants, et notamment sur la fille, plus que sur Jean Lafargue, c'est-à-dire la sœur de Jean Lafargue. La sœur de Jean Lafargue dit à son frère « Quand mon père est mort, j'en ai été soulagé ». Donc ça prouve bien qu'il a eu un poids paternel, une sorte d'ombre agissante, une ombre puissante.
Mais lui, il parle d'apaisement.
C'est la sœur de Jean Lafargue qui parle d'apaisement. Elle s'est sentie soulagée, apaisée.
Elle en avait peur.
Oui, parce qu'il était certainement effrayant. Il était certainement un père très... très dominateur, voilà. Je crois même qu'il est décrit comme un tyran domestique.
Alors, le portrait de la mère, là, est beaucoup plus étendu. C'est une mère, je dirais, toxique, presque.
Oh, je ne dirais pas ça. De mon point de vue, c'est une femme qui a une préférence, pour le fils aîné. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'elle est vraiment toxique, comme c'est un mot qu'on utilise beaucoup ?
Oui, c'est vrai. Et que j'utilise rarement, je ne sais pas comment, parce que quand même...
C'est une femme
elle
un peu rude.
Elle est indifférente, elle est méprisante.
Oui. Ah, pas avec tout le monde.
Elle peut être méchante.
Oui.
Je trouve que pour son second fils...
Oui, elle est indifférente parce qu'elle est très éloignée des intérêts de son fils, c'est tout. Alors qu'elle est très proche de son fils aîné parce qu'il est lui-même paysan. Et il est très le paradoxe est qu'elle est très proche de son fils aîné qui,
lui, n'est pas proche du tout d'elle.
La rejette.
Oui. Bon,
il y a quelque chose aussi, c'est que dans la psychologie de cette femme, elle a été dominée par son mari. Et pourtant, elle reconnaît dans son fils aîné les traits de son mari. Et ce sont des traits qu'elle aime quand même.
Oui.
C'est-à-dire une sorte de force, de puissance. Donc le paradoxe de cette femme, c'est qu'elle aime ce qu'elle déteste.
Oui.
C'est l'attachement à ce fils aîné tout de même très paradoxal chez cette femme.
Reconnaissez quand même qu'elle est... Alors j'ai dit toxique, on va trouver un autre mot.
Non, mais on peut utiliser toxique
si vous voulez. Je trouve que pour son fils qui s'est cessé à l'écriture, qui essaie de...
Mais ça n'a pas d'existence pour elle, vous voyez ce que je veux dire.
Elle va jusqu'à brûler ce qu'il écrit.
Oui, mais parce que pour elle, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. C'est brûler des feuilles mortes, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est de labourer la terre, d'avoir une activité physique, d'être sportif ou je ne sais quoi. Enfin, ce qui se fait à la campagne.
Vous êtes un bon avocat.
De cette mère ?
Oui, je trouve.
Oui, je suis l'avocat de tous les personnages.
Bon, alors passons au frère. Eh bien, moi, le frère m'est sympathique, en revanche.
Il l'est, oui.
Oui, alors bon, c'est le préféré. Je pense que Jean Lafargue en est jaloux, implicitement.
Non, pas du tout.
Ah non, mais
il ne boxe pas du tout dans la même catégorie. Alors, il n'y a pas de jalousie à voir, non.
Eh bien, moi, suis persuadée qu'il est jaloux. Parce qu'il parle de son indifférence, qu'il n'a pas envie d'être proche de son frère, etc. Ça ne peut être... Moi, je n'y crois pas.
Vous voulez dire que quand on veut être éloigné de quelqu'un, c'est parce qu'on veut être proche de lui ? Vous êtes trop compliqué pour moi. Vous êtes trop compliqué pour moi. Non, je pense qu'il n'a pas de points communs avec lui.
Ont des points communs, bien sûr.
Très peu.
Ils
sont frères, quoi. Il y a une scène où ils se rappellent tous les deux c'est une scène de souvenirs de complicité, oui. La seule qu'ils ont eue dans toute leur enfance, où ils voient des insectes blancs tournés autour d'un lampadaire.
Voilà. Et puis il y a une scène où ils se retrouvent au cimetière sur la tombe.
Voilà, donc c'est la deuxième scène où, dans le présent, ils sont proches, si vous voulez. Mais il n'y a pas de jalousie à avoir. Ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Ils sont trop différents pour ça.
Vous n'allez pas me convaincre.
Je suis pourtant un bon avocat.
Parce que je pense que ce que Jean, le cadet, face à ce frère, qui est le frère aîné, déjà, qui est le préféré et du père et de la mère, mais comment ne peut-il pas être jaloux?
Comment faut-il faire pour vivre en fuyant ce village? C'est tout, voilà sa réponse. Mais ce n'est pas par jalousie, c'est parce qu'il n'a pas sa place dans ce village et dans cette famille.
Non, je ne parle pas par rapport au village, mais par rapport
mais
au
dans
frère.
Dans cette famille, il n'a pas sa place, donc il s'en va. Mais il n'est pas jaloux, non, je vous assure.
Et il dit qu'il se félicite.
Je le connais très bien, Jean Lafargue, je discute souvent avec lui, il n'y a aucune
jalousie.
Il dit
qu'il se félicite qu'ils soient étrangers l'un à l'autre.
Oui, parce
pourquoi
que...
Pourquoi s'en féliciter?
Mais parce qu'ils sont trop différents pour avoir un intérêt commun. Et il se félicite au moins il n'y a pas d'attachement possible, donc il n'y a pas de souffrance.
Mais
voilà
est-ce
ce qu'il veut
que
dire.
La différence fait qu'on ne peut pas s'entendre? On peut s'entendre avec des gens qui sont très
différents.
Mais
Jean Lafargue s'entendrait très bien avec son frère si ce frère n'était pas lui-même odieux, en fait. C'est un frère odieux, vous l'aimez bien, d'accord. Je veux bien le défendre jusqu'au bout, mais il est quand même odieux avec son frère. Il le traite par-dessus la jambe, quoi. Bon...
C'est le frère aîné, c'est le petit frère, et ils n'ont pas la complicité
que devrait être... le frère aîné n'a pas l'espèce de complicité qui pourrait être. Ouais, voilà, il n'a pas aucune protection à attendre de lui.
Bon, il tient quand même un peu de ses parents malgré tout.
Mais l'aîné, totalement.
Oui, mais pas vraiment, parce que justement quand il se retrouve au cimetière, on sent une grande sensibilité.
Mais en fait, on peut peut-être pas raconter la scène, mais il y a une scène d'indifférence de la mère à la mort d'un enfant.
Oui.
Et tous les deux frères, se retrouvent sur la même idée que c'est impossible de ne pas être révolté par cette indifférence. Voilà.
Exactement. Voilà. Et oui.
Mais c'est le seul. Donc
c'est pas parce que c'est un taiseux qui n'a pas des affinités avec son frère.
Non, oui, c'est
moi
vrai.
Aussi, je vais être avocate.
Oh, mais. Est-ce que c'est pas une affinité, c'est simplement un bon sens émotionnel, si vous voulez. Il y a des choses dans lesquelles il y a une indifférence qu'on ne peut pas avoir, quoi, que l'on s'entende ou pas avec quelqu'un.
Oui.
Ils sont révoltés
avec
par
des
la
frères,
même chose.
C'est difficile, peut-être, parce qu'ils ont quand même vécu les mêmes choses.
Oui.
Ils ont les mêmes parents.
Puis, il y a quand même un rapport de domination, hein, puisque, comme vous le signez, il y a l'aîné, il y a le cadet. Et il y a un rapport de domination qui se fait par l'âge, tout bêtement.
Oui. On va parler de Jean Lafargue, mais pour l'instant, on va faire une pause musicale. Il s'agit de...
Alors, j'avais parlé d'un morceau qui s'appelle L'Encantada et qui est une très jolie chanson de la Chalosse, quoi, du Tursan, de la Chalosse.
Et qui parle de quoi?
C'est une histoire sentimentale.
D'accord.
Voilà.
On l'écoutera peut-être pas en entier parce qu'elle
est assez longue.
Elle est longue.
Oui.
D'accord.
Patati patata, no sé yo ni sonrío, no me apastrigues que la tengo que no se te queda ante la sede. Patati patata, no sé yo que me arribo, ella es nada vieja que en balú su camino que camino te creo. No sé y palo su nombre, que yo quede encantado, que la vez de pasar yo que me hice así tu matía la güey. No sé palo su nombre, que yo quede encantado. No hay pasti pensar, era no hay que lo diga, era no hay. Yo tus ten cabeza ver, dice no, dice a Dios. Yo llamé a mi mujer, ya me entregado a mi Yeah.
de la terra d'Oceo, tal com la periclava, e tutta capina terra non serà dei lluiament com abans, ni lo red de la neu, ni lo verde la prado, ni lo canto mainal, ni la nado surei che è corre l'usans, non sei pallo sono, taglio che l'incantado, e se ne fa sta vuelta d'un mati seguiti la nida e farà. Non sei fallo sono, ta io che l'ho incantato, doma co diserei di casiti di schizzo che t'ha per incontrare. Io tu stenca di sapere, e dice no e dice lì, io chiamei la vivoli, chiamei pregare.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Alors nous retrouvons Bruno Lafourcade qui vient nous parler de son nouveau roman Saint-Marsan, un retour en Chalosse paru aux éditions Terre de l'Ouest. Saint-Marsan, c'est dans les Landes,
oui, oui.
Voilà. Bon, et puis chers auditeurs, si vous avez écouté le début de cette émission, vous avez vu que c'était animé,
que
Bruno Lafourcade défend ses personnages, mais moi aussi d'une certaine manière, et qu'on n'est pas forcément toujours d'accord sur l'interprétation. Voilà, mais dans le fond, je voulais vous dire, Bruno Lafourcade, que vos personnages ne vous appartiennent plus.
C'est vrai, mais je me sens le devoir de les défendre coûte
oui,
que coûte.
Vous avez le droit,
absolument.
C'est vrai.
Un peu comme une mère avec ses petits.
Voilà. Alors, parlons maintenant de Jean Lafargue. C'est vrai, on a parlé de cette différence et je pense que c'est très important. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce garçon qui a écrit... Ah là là, là voilà, ça c'est terrible, trou de mémoire, qui raconte qu'il était dans un milieu ouvrier et que vraiment...
Édouard Louis,
voilà.
Pour finir avec Eddie
voilà.
Belleville. Oui.
Bon, alors il y a d'autres composantes, hein, mais dont on parle...
Oui, il y a l'homosexualité chez lui,
aussi, mais
qui n'est pas dans son roman.
Oui, voilà, exactement, mais il y a aussi...
Il y a un fond social, oui.
Oui, exactement. Jean Lafargue, il est trop différent. Il est, du coup, il est exclu, on s'en moque méchamment, parce que dans le fond, vous ne croyez pas que les gens sont un peu jaloux, un peu... Ils se méfient. Il y a une méfiance à l'égard des intellos, comme on dit.
Il y a une méfiance à l'égard des gens qui ne pensent pas comme vous, qui ne voient pas la vie de la même façon que vous, qui ne voient pas les intérêts au même endroit que vous. Bon, voilà. Mais la jalousie, j'y crois très peu, très très peu.
Ah oui?
Non, je ne crois pas que ce soit un moteur de quoi que ce soit. C'est la conscience que les gens qui sont différents vraiment de soi, on ne s'y intéresse pas parce qu'ils sont différents, c'est tout. Mais la jalousie, ça à part la jalousie financière, si vous voulez, la jalousie, la réussite sociale, il y a la jalousie pour des questions de sentiments, non.
Mais est-ce que vous ne croyez pas que, dans le fond, les autres ne comprennent pas ce qui l'anime ?
Oui, bien sûr. Il est totalement incompréhensible pour la majorité du village, d'ailleurs.
Oui. Et du coup, il n'est ni encouragé, ni accepté, ni reconnu. Ni
voilà,
véritablement
oui.
Reconnu.
Et d'où l'idée de son départ, en fait. Tout est venu de là. Il y a quand même un personnage qu'il faudrait que je voudrais évoquer avec vous, c'est le personnage de Bernard.
Attendez, alors attendez, on va y arriver.
Parce
à
que
Bernard.
Ça répond aussi à votre question.
Oui.
Sur la question de l'isolement et de la
oui.
Bon, quand on est seul et que l'on est rejeté, on trouve l'amitié où l'on peut. Et le premier sur le seul d'ailleurs qui le duquel il va se sentir proche, c'est quelqu'un qui est aussi seul que lui.
Et qui ne lui ressemble pas.
Et qui ne lui ressemble pas du tout. Et qui est même son inverse. Mais ce sont deux solitudes qui se retrouvent.
Il n'y a pas grand-chose qui les réunit quand même.
Il y a très peu de choses qui les réunissent, sinon la solitude. Mais vous savez, la solitude, c'est une réalité pesante. Et c'est une, quand on est jeune et fringant et qu'on rêve de liberté, la solitude est un sentiment qui peut souder deux êtres. Vous savez, deux êtres qui n'ont pourtant rien à voir. Et ils n'ont rien à voir.
Ah non. En revanche, d'ailleurs, il n'a pas forcément envie, il n'a pas très envie de le retrouver.
Ah non, 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 il le retrouve par hasard, en fait. Absolument. Il n'a pas du tout envie, il n'y pense même pas, d'ailleurs. Il tombe dessus par hasard. Mais Bernard et Jean sont liés par le même sentiment, c'est-à-dire le sentiment d'être, d'une certaine façon, tous les deux très différents du milieu où ils ont vécu. Jean est certainement aussi fasciné par quelque chose chez Bernard qui est une sorte de tête brûlée. Et il a quelque chose qui fascine quand même Jean, c'est l'idée que
il
n'a peur de rien.
Il ose tout.
Il n'a peur de rien et physiquement, c'est un type qui paraît incassable, qui se bat dans les balles avinées.
Alors justement,
qui n'a peur de rien.
Oui, justement. Est-ce que le fait d'être différent, c'est-à-dire d'aimer des choses que les autres n'aiment pas, c'est-à-dire la lecture, d'aimer écrire, enfin surtout les livres, est-ce que dans un monde plutôt macho, je suppose qu'il y a le rugby, il y a peut-être la pelote basse, je n'en sais rien. Bon, il faut être fort, il faut être costaud, il faut être viril. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée de féminisation ?
Je ne sais pas, mais en revanche...
C'est peut-être une idée que je vous apporte, là.
Oui, absolument. Il y a vous me faites penser à quelque chose, c'est-à-dire que le personnage de Bernard... c'est une hypothèse donnée par Jean, est un homosexuel refoulé.
Oui, c'est à un moment donné... Oui.
Et il y a effectivement dans les comportements et dans les haines du personnage de Bernard, un refoulement sexuel qui est apparu au grand jour chez Jean. Enfin, Jean le voit comme un homosexuel refoulé. Voilà.
Oui.
Et c'est tout à fait plausible, en fait. Oui. Ça expliquerait d'ailleurs la haine de Bernard pour les homosexuels.
Oui, tout à fait. Il se défend. Oui. À un moment donné, votre personnage dit qu'il éprouve le sentiment d'être défait et c'est de ma religion qu'il me vient.
Oui.
Ah.
Il y a tout un thème autour de la religion et autour de l'accueil, autour de la religion de l'accueil en quelque sorte.
Mmh.
Je crois que le personnage de Jean Lafargue n'accepte pas le courant... catholique, comment le dire, n'accepte pas le courant catholique qui n'a aucun recul et aucune... je ne sais pas comment l'exprimer. Qui prend toute la réalité sans en rien contester. Voilà. Mais c'est très difficile pour moi de l'expliquer parce qu'il y a des exemples concrets à prendre.
Oui. Le curé appartenait à l'école moderne, comme presque tous les curés aujourd'hui. Son sermon était d'une correction sans faille, d'un humanisme impeccable. Après avoir rappelé qu'en hébreu, maison avait autant de sens de famille que de demeure, il engagea ses fidèles à accueillir l'autre et à ouvrir notre demeure aux pauvres, aux étrangers, aux migrants. Ce qui me parut s'accorder parfaitement à l'invasion voulue par nos gouvernants. On se rapproche d'un thème qui peut faire polémique.
Absolument. Quand on lit les sermons de Bossuet, les sermons des grands catholiques du passé, mais on tombe à la renverse que devant la niaiserie de certains sermons de certains curés. Voilà ce qu'il veut dire, en fait. Il est choqué par la niaiserie des sermons. Mmh. Ça ne sert à rien de dire on est pour le bien commun, on est contre ceci ou pour cela. Ça ne sert à rien. C'est pas fait pour ça, en fait. Le sermon les béatitudes, ce n'est pas ça que ça exprime. Les béatitudes, ce n'est pas de la niaiserie. Ça n'a rien à voir avec ça. Si on veut tirer du côté de la politique, le catholicisme, du point de vue politique, est beaucoup plus le catholicisme, si vous voulez, un peu originel, est beaucoup plus violent dans les mots et dans les pensées que cette espèce de catholicisme light, si vous voulez. Les évangiles sont des textes extrêmement brutaux en réalité.
Oui. Mais
le Christ n'est pas un pacifiste, un pacifique évidemment, mais je veux dire que la violence qu'il y a dans les évangiles est réelle. Oui. Et il y a une volonté d'édulcorer tout l'aspect combattant dans la foi catholique qui, pour Jean Lafargue, est inacceptable.
Oui, alors, combattant, mais en même temps, dans l'Évangile, il y a aussi l'accueil des autres,
de la femme perdue, etc. Bien sûr, absolument. Mais il y a dégoût de l'injustice. C'est ça aussi, c'est ça qui intéressait aussi Jean Lafargue. D'accord. C'est que pour lui, le christianisme, c'est pas seulement des histoires d'ouverture aux autres abstraites qui veulent rien dire. C'est la défense du plus faible. Et dans la défense du plus faible, il ne faut pas négliger la défense de celui qui vit dans son pays.
Mais quand vous parlez de la défense du plus faible, c'est peut-être ça. Quand on parle d'ouverture aux autres, c'est d'ouverture. On parle des migrants, par exemple.
Il a toute une théorie sur les passeurs, les migrants. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'est-à-dire que le migrant qui fuit la misère, c'est un pauvre parmi les pauvres, si vous voulez, pour un catholique. Mmh. Mais il y a aussi toute l'organisation d'une sorte de déshumanisation de main-d'œuvre, de chair fraîche que l'on importe pour la faire travailler à bas coût. Pour lui, c'est ça qui compte. Mmh. Il y a un aspect du catholicisme qui est absolument effrayant pour Jean Lafargue. C'est qu'on nie tout l'aspect commercial de cette espèce de traite des migrants, en fait.
Il voit ça de façon très ferme. Je ne crois pas que ce soit le propre des catholiques, mais vous ne croyez pas qu'en même temps, on ne peut pas laisser se noyer les gens sous prétexte que ça rapporte de l'argent.
Mais c'est la surface. Il y a tout le reste. Dans son esprit, Jean Lafargue, c'est arrêter d'ouvrir les vannes et il n'y aura plus de morts. Aider les gens à se développer dans leur pays, et ne pas créer d'autres miséreux qui viennent s'additionner à une autre misère. L'injustice sociale est beaucoup plus riche chez lui, si vous voulez, le sens de l'injustice sociale est beaucoup plus riche chez lui que chez le catholique lambda qui dit merci l'accueil des autres et l'ouverture aux autres. Ça, c'est du flan, c'est de la piperade, ça.
Comment combat-il l'injustice sociale,
lui? Eh bien, lui, par exemple, il a été professeur dans une école de... Vous m'avez reçu pour cette histoire-là, dans un lycée professionnel. Et il s'est engagé de toutes ses forces à faire du mieux qu'il pouvait dans son métier. Et dans le roman, il est dit qu'il est, il fait de l'alphabétisation pour les travailleurs étrangers. C'est-à-dire qu'il est le contraire d'un raciste, en réalité.
Mais ça se pratique toujours, ça, vous êtes bien d'accord.
Bien sûr.
Et justement, on parlait des catholiques, il y a beaucoup d'actions.
Mais bien sûr, mais il n'est pas question de remettre en cause la bonne volonté et le sacrifice, le don de soi qu'il y a chez les catholiques, c'est évident. Mais il y a une confusion entre le don de soi et l'aveuglement.
Oui. Est-ce que vous pensez vraiment aveuglement, mais est-ce que vous ne croyez pas quand même que les gens qui réfléchissent un peu voient très bien que... Moi, ce qui m'étonne chez Jean Lafargue, c'est justement cette prise de position radicale. Parce qu'on sait très bien ce que vous dites et ce qu'ils pensent, à savoir qu'en effet, il y en a qui s'en mettent plein les poches, hein, les passeurs, etc. Il y a tout un système organisé. Mais de là... à accepter ce qui se passe, parce qu'on sait qu'il y a de la famine dans certaines contrées, ailleurs, qu'on n'y est pas pour rien non plus. On n'y est pas pour rien. Vous savez très bien que la plupart des mines...
Oui, mais si on va par là, les habitants des pays eux-mêmes n'y sont pas pour rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Eux aussi doivent cultiver leurs terres, eux aussi doivent se développer eux-mêmes. L'Europe ne peut pas tout pour tout le monde.
Oui, au Soudan, c'est peut-être un peu difficile.
Mais et moi je vous dirais, en Algérie aussi, c'est pas... Vous voyez, l'Algérie est un pays extrêmement riche, en réalité. Alors...
Vous reviendrez pour parler de l'Algérie, parce que peut-être qu'en ce moment, ça c'est en train de changer. Sait-on jamais ?
Nous verrons.
Bon, en tout cas, revenons à Jean Lafargue. Il y a une scène de repas familial... C'est bonjour l'ambiance, comme dire.
Oui, mais est-ce que vous n'avez pas souri de temps en temps ?
Si, bien sûr.
Est-ce que ça ne vous a pas fait rire ou rappeler certaines scènes vécues au cinéma ou vécues dans la vie réelle ?
Oui,
On a tous vécu ce genre de scènes.
Oui, alors il y a la fille, la gamine écervelée qui est toujours avec
son
portable.
Comme tous les adolescents d'aujourd'hui, qui vit à moitié sur son portable.
Voilà. Alors Jean Lafargue est sans indulgence à l'égard des jeunes. Effectivement, c'est énervant. Mais c'est comme ça. Parce que, est-ce que vous ne croyez pas qu'on
mais
devait
parce que c'est
énerver...
comme ça, on n'a pas à l'accepter.
Est-ce
enfin.
Qu'on devait, vous ne croyez pas qu'on devait énerver certains adultes quand nous étions adolescents
d'une autre façon, certainement. Mais là, c'est même pas insupportable. C'est même pas vivable, en fait. Il n'y a même plus de point de conversation possible à avoir. Avant, ce qui agaçait nos parents, c'est qu'on discutait à table, en fait. Ils nous faisaient taire. Ou alors qu'on n'était pas, pas d'accord avec eux. Bon, voilà. C'était des conversations. On s'écharpait sur des idées. On s'échapper sur des comportements, des tenues. Mais là ce n'est même plus ça, puisqu'il n'y a plus de conversation possible.
Écoutez, à notre place est venu un grand spécialiste de l'informatique et son slogan, c'était « Halte à la dictature de l'informatique ». Il vous rejoint, vous voyez. Mais est-ce qu'on peut faire marche arrière? Comment voulez-vous faire marche arrière?
Je ne veux pas faire marche arrière, moi.
Comment pouvez-vous expliquer
Je veux,
souhaitez.
J'aimerais que.
C'est un vœu pieux, on va
j'aimerais
dire.
J'aimerais qu'il y ait une éducation autour. C'est aux parents de faire ce travail-là, en fait. C'est pas à moi de leur dire est-ce qu'il faut revenir en arrière. Je veux pas revenir en arrière. Je suis très content d'être dans le monde moderne, moi.
Vous laissez aux parents un sacré boulot. Hein.
Mais à quel moment être un parent, ça n'a pas été un super boulot?
Ah, je pense que c'est beaucoup plus difficile maintenant qu'il
vous
y a...
Vous pensez que...
Ah oui, ça j'en suis certaine. Je pense que les jeunes étaient... Bah, écoutez, moi, ma génération était beaucoup plus, entre guillemets, soumise. Et...
Oui, bien sûr. Mais maintenant, les adolescents sont soumis à autre chose. Ils sont soumis d'abord à la technologie. C'est une autre soumission.
Oui, mais les adultes, ceux de 50 ans, c'est la plupart sont comme ça aussi.
Soumis?
Ah oui. Oui. Ben oui, il y en a qui ne peuvent plus vivre sans leur ordinateur, sans leur portable, sur leur iPhone. Enfin, c'est...
Oui, ce n'est pas le thème essentiel du roman, parce que c'était juste une scène. Quoi.
Mais
effectivement,
oui, mais c'est intéressant. C'est, mais justement, voilà. Vous parliez de drôle, mais c'est vrai qu'on le voit, ça, on le voit.
Oui.
Et puis, il y a des mots qui fusent, et il y a un moment... Effectivement, les jeunes ont pris l'habitude de dire ce qu'ils pensaient sans filtre, et ça, effectivement, c'est une question d'éducation.
Voilà.
Mais alors là, c'est tellement... Maintenant, on aurait du mal. Il faudrait les reprendre, certains...
Vous savez, il y a des enfants encore très bien élevés. Hein.
Oui, il y en a... Je suis d'accord avec vous.
Donc, c'est bien la preuve que ce sont aussi les parents qui éduquent leurs enfants. Hein. Ce n'est pas seulement la technologie.
Oui. Mais alors, si on remonte plus loin, peut-être que la société fait que il y a beaucoup de... Tout a bougé. La cellule familiale n'est plus la même.
Oui, bien sûr. Hein.
Si on entre là-dedans...
Bien sûr. Mais vous êtes une révolutionnaire. Vous voulez tout faire sauter.
Oui, ça doit être ça. Alors donc... Jean Lafargue revient pourtant vers cette famille. Je me suis demandé si confusément, parce que vous dites qu'il revient vers le pays, mais il revient vers la famille. Parce qu'après tout, il aurait pu planter sa tente dans un champ.
Je ne suis pas sûr.
Une évolution, une reconnaissance, un intérêt de la famille pour ce qu'il est, lui? Est-ce que vous il
dans le
pas
roman, non. Est-ce que lui l'espérait? Je ne crois pas, non. Il est déjà détaché de tout ça. C'est un homme tout à fait détaché des contingences de cette sorte.
Hein. Oui.
Non. Non, il est revenu parce qu'il avait besoin de revoir son pays, tout simplement.
En même temps, moi, je ne le sens pas tout à fait détaché parce qu'il réagit au quart de tour. Et pourquoi
pas? C'est un sanguin.
Oui. Et en parlant de sanguin...
Contrairement à moi, lui, il n'a aucun sang-froid.
Alors, vous décrivez, il y a plusieurs scènes que vous décrivez très précisément. Et vous voyez, j'ai appris plein de choses. Par exemple, quand on tue le cochon, c'est vrai que c'est festif, hein, c'est un événement exceptionnel. La course de vaches de combat, on dit pas de vachettes.
Je crois alors, les vachettes, ça vient de l'émission de télévision qui s'appelait Interville, je crois.
Ah oui, c'est
et
ça.
Et en fait, ce sont des taureaux de combat, ce sont des vaches de combat, oui, ce sont des taures. C'est pas du tout des vachettes, non. C'est un mot qui faisait mourir de rire ma mère quand elle entendait vachette en pensant.
Parce qu'elles étaient pas quand même, elles étaient plutôt sveltes.
Elles étaient rapides, si vous voulez, mais vous prenez un corps de vachette, un coup de corne, vous allez comprendre que c'est pas une vachette.
Oui, oui. Alors pourquoi avez-vous décrit cela pour la
En fait, il y a un aspect presque ethnologique. Il revient là aussi, il décrit le monde d'autrefois. Et ce monde d'autrefois, c'était le monde où on élevait un cochon, on le tuait avec les voisins et on en en tirer de quoi se nourrir pendant quelques temps, vous voyez.
Oui.
On faisait des jambons, des boudins, bon. Et la course landaise, c'est aussi tout ce qui reste de la de tradition folklorique landaise.
Oui.
Et j'ai écrit ça aussi pour autre chose. Quand j'étais à l'école, à l'école communale plutôt, l'instituteur nous demandait d'écrire des espèces de compositions, des rédactions, et il nous interdisait chaque fois d'écrire le tu cochon, parce que le tu cochon, c'était le cliché de la rédaction. Donc, il avait interdit à tout le monde de faire ça. Donc, pendant les 2 ans.
Il faut dire qu'il y avait peut-être pas trop d'événements.
Mais non, c'est ça. On cherchait de quoi parler. Les vacances, vacances dans les Pyrénées, on n'y allait pas.
On peut envoyer de vacances.
Ben voilà. Ouais. Et donc, je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais parler de ce que je n'avais pas le droit, ce dont je n'avais pas le droit de parler quand j'étais enfant, le tu cochon. Donc, j'ai décrit un tu cochon et j'ai montré l'ambiance qu'il y avait, l'aspect un peu rural et le voisinage, l'aspect traditionnel et tout le lien communal que l'on pouvait avoir autour de cette fête, qui est était une vraie journée festive.
Ouais.
Et joyeuse. Alors qu'en fait c'était un événement atroce. Entendre hurler le cri du cochon, l'entendre hurler, je l'ai encore dans les oreilles. En fait, c'est un truc inoubliable.
De même que vous décrivez par le menu comment on s'occupe des volailles.
Oui. Ah, et oui.
Ça aussi, c'est rude.
Oui. Ah oui, il y a un thème dans le roman sur lequel j'ai voulu insister, c'est tout ce qui concerne la mort. La mort n'a pas du tout le même rapport avec quelqu'un, un citadin qui va chercher son poisson pané. La mort n'a pas du tout le même rapport quand vous tuez vous-même un lapin avec un coup de barre derrière la nuque.
Oui.
Ou que vous tuez un poulet. Quand vous le faites sans cruauté, mais vous le faites parce que c'est un animal que vous avez élevé pour le manger. Mmh. Le rapport à la souffrance et à la mort n'est pas du tout le même que chez un citadin qui va faire ses courses au supermarché.
Mais il me semble quand même qu'il y a des gens, des jeunes qui ont les cris des cochons.
Non, mais je crois que le cri du cochon, c'est le cri le plus phénoménal, le plus presque métaphysique qui existe au monde.
Oui.
C'est un cri affreux.
D'autant qu'on dit qu'en fait, il est très proche de l'homme. On le sait maintenant. Hein,
c'est un hurlement. En fait, il y a une nuance dans le cri du cochon. C'est le cri de la peur, parce qu'il sent qu'on va lui faire du mal. Quand on le prend à quatre et qu'on le met sur ce qu'on appelle la mate, c'est-à-dire l'endroit où il va être enseigné.
Il paraît qu'il est plus intelligent qu'on ne le croit. Hein.
Il crie de peur avant de crier de souffrance. Et ce double cri est un souvenir que tous les enfants qui ont eu mon âge... tous les hommes qui ont eu mon âge plutôt, enfants, se souviennent, je pense. Ouais.
Alors, vous décrivez cela, ça fait partie de la nostalgie, mais est-ce que Jean Lafargue veut arrêter le temps?
C'est un écrivain, et comme tous les écrivains, il s'appuie sur le passé pour écrire, et je crois qu'il y a certainement le fantasme du temps arrêté.
Au temps suspend ton vol.
Peut-être, oui, peut-être.
Parce que en fait,
bon, il n'aime pas le monde moderne, hein, c'est vrai.
Oui. Oui, mais encore une fois, bon,
il n'y peut rien. Oui,
les
sais.
Les femmes au lavoir et
mais non,
la charrue.
Mais non, je pense pas, parce que ça, il n'a pas connu tout ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout un réactionnaire en ce sens-là. C'est quelqu'un dont c'est un anti-moderne. C'est pas du tout un réactionnaire de ce point de vue.
Oui, mais l'un va pas sans l'autre, finalement.
Vous savez, tous les grands écrivains ont été des antimodernes. Baudelaire était un antimoderne. Nerval était un antimoderne. Tous les grands écrivains étaient des antimodernes. Verlaine aussi, tout le monde. Et d'ailleurs, Balzac, n'en parlons pas. Et d'ailleurs, je signale qu'ils étaient antimodernes, souvent, et catholiques. Mmh. Et c'est bien qu'à l'époque, le catholicisme allait très bien avec la haine de la modernité. Je vous empêche de parler.
J'ai pas la répartie pour le coup. quand vous dites, vous lui faites dire, il dit ma lucidité, mon refus d'être dupe. Je me suis dit, c'est la peur d'être dupe finalement. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas. Il parle de l'auteur, vous parlez de sa manque de confiance en lui. Manque de confiance dans les autres et la peur d'être dupe. Donc, il ne faut pas trop bouger, remuer les choses.
Ah, je ne vois pas de lien entre les deux. J'ai utilisé l'expression « inconfiance en soi ».
Oui.
C'est une expression que j'avais trouvée.
Tout à fait. Je l'ai noté. Son inconfiance, le fiche dans des postures qu'il
appelle.
Il n'y
a pas de posture chez lui. Vraiment, il pense ce qu'il dit, mais ce n'est pas par posture. C'est pas du tout... Ah non, non, ce n'est pas du tout une posture. Hein. Il ne joue pas à être, hein, du tout. Et d'autre part, inconfiance en soi, c'est quelque chose qu'on hérite. On ne lui a pas donné confiance ni dans ses idées, ni dans son talent, ni,
oui,
dans, son, ni,
oui,
dans quoi que ce
vrai.
Soit. Il y a une inconfiance et une sorte de...
Ah, vous dites qu'il en hérite ? Non, il n'est pas né inconfiant.
Non,
il est devenu...
vous avez raison. Il n'hérite pas de ça, mais on ne lui a pas donné confiance. Voilà.
Oui, c'est ça.
Et il a... Oui, il a obtenu cette inconfiance par l'accumulation d'humiliations qu'il a subies.
Oui, mais moi je pense qu'il s'enferme dans une sorte de carapace, car comme ça, il a le sentiment d'être à l'abri. Et c'est dicté par la peur d'être remis en question, comme il l'a été par sa famille. Moi, je pense qu'il faut aller gratter du côté de la famille. Bon, il reste très peu de temps, là. Christophe est en train de nous dire...
Oui, puis que... je ne peux pas me lancer dans cette psychanalyse, mais je sais... Ah. Parce qu'il me l'a dit qu'il n'est pas d'accord avec vous.
Bon, d'accord. Alors, parlons de l'écriture. Oui, à un moment donné, il y a ces passages aussi très intéressants par rapport à l'écriture, puisque Jean Lafargue est écrivain. À un moment donné, je ne sais plus lequel de la famille dit « Pourquoi tu le fais alors ?» parce que ça ne rapporte pas. Mais c'est difficile de vivre de l'écriture, on le sait bien. On le sait bien. Et que la difficulté d'un écrivain, c'est d'être édité, d'être lu et d'être reconnu. Moi, j'ai beaucoup aimé les dialogues, les descriptions, hein, que vous faites. Vous avez émaillé votre ouvrage de beaucoup de mots en patois.
Ah, oui, c'est, y a des mots un peu...
Mais vous avez quand même... Merci.
J'ai un petit lexique à la fin de chaque mot, enfin, oui, à la fin de chaque page.
Oui, oui. Et dans la construction aussi, il y a des changements de rythme. Il y a des dialogues,
oui,
assez vifs d'ailleurs,
oui,
des descriptions... Et puis des scènes de vie, comme,
oui,
on parlait tout à l'heure. Voilà. Bon, un
c'est
livre.
C'est un roman, donc.
C'est
en
un
fait.
Roman, c'est un roman. Mais alors, il y a cet aspect-là dont on a discuté. Bon, et les personnes qui vous liront pourront en discuter aussi. Parce
absolument.
Que, effectivement, c'est un sujet actuel dont on n'a pas trouvé la clé.
C'est vrai. C'est
voilà.
Vrai.
Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Saint-Marsan, un retour en Chalosse de Bruno Lafourcade aux éditions Terre de l'Ouest. Merci.
Est-ce que je peux ajouter un dernier mot ?
Oui.
J'ai un roman qui va paraître chez un autre éditeur qui s'appelle Le Bretteur et le roman s'appelle Ahmed le Magnifique et qui est un peu le versant ouest de Saint-Marsan, qui serait le versant est, si vous voulez.
Alors, ce n'est plus Jean Lafargue, c'est Ahmed ?
Alors,
le personnage ?
Le personnage s'appelle Ahmed, et Ahmed le Magnifique, comme Gatsby le Magnifique,
d'accord,
bien sûr.
Oui, bien
voilà.
Sûr. Bon, mais voilà. Ben alors
voilà,
peut-être
je voulais le dire. Et puis, l'éditeur s'appelle Le Bretteur. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Merci,
Bruno Lafourcade. Merci beaucoup, Monique Fauché.